Ils ont l'air étonnés d'être là, debout ensemble sur ce radeau de fortune. Personne ne se regarde. Jupe, petit sac à main, casquette, bras de chemise. Il ne faut avoir l'air de rien. Une traversée sans enjeu, mais le regard intranquille trahit tout. Alfredo Estrella de l'AFP a capturé cette traversée illégale du Guatemala au Mexique. Bienvenue à tous sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h50. Le Guatemala, ce sera l'objet de notre second plateau, mais pour le moment, arrêtons-nous bien plus près d'ici. C'est une semaine en France marquée par des drapeaux en berne et des hommages pleins de colère. Jean-Michel Mathieu, maire de Signes, commune de 3000 habitants dans le Var, est mort lundi dernier, percuté par une camionnette dans l'exercice de ses fonctions de maire. Beaucoup de colère donc dans les mots de ses confrères un peu partout en France, comme si cette mort tragique avait, passé la sidération, délié des langues ou plutôt ouvert plus d'oreilles. Car les maires n'ont pas attendu la mort d'un des leurs pour prendre la parole. Leur 101e congrès en novembre dernier, la crise des gilets jaunes et le grand débat national qui s'en est suivi ont été autant de tribunes pour exprimer au moins leur lassitude. Celle d'avoir affaire à des textes de loi déconnectés de leur terrain, d'être confrontés au manque de moyens et à la colère de leurs administrés dont ils sont souvent les seuls interlocuteurs. Alors quelques mois avant les élections municipales de 2020, qui veut encore être maire? La question se pose alors que l'âge moyen de nos édiles dépasse la soixantaine et que certains maires, y compris parmi les plus jeunes, se demandent s'ils ne vont pas carrément quitter la vie politique.
Le magazine du week-end, Émilie Chaudet.
Et pour parler de ce sujet, nous sommes en plateau avec Christian Robage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire depuis 2014 de Montévrin, commune de plus de 10 000 habitants en Seine-et-Marne. Vous avez été élu sous l'étiquette des Républicains, que vous avez quitté en 2017 pour rejoindre la formation politique de droite, toujours Agir. Avec vous pour discuter, un autre maire au téléphone, cette fois David Lefebvre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes alors ancien maire sans étiquette de Friville-Escarbotin, commune de 5000 habitants dans la Somme. Ancien maire car vous avez décidé de ne pas aller au bout de votre second mandat. C'est une décision récente. Donc votre second mandat qui se terminait en 2020 et nous allons revenir au cours de cette émission sur ce qui a motivé votre décision. Avant cela, je présente notre troisième invité. Il s'agit de Martial Foucault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités et directeur du CEVIPOF, Centre de Recherche Politique de Sciences Po.
Monsieur le Président, je suis élu depuis 2001, maire depuis 2008, président de l'AMR à 46 depuis sa création en 2015. Je ne suis pas issu de l'ENA, pas de Polytechnique, pas de Saint-Cyr, mais de Saint-Cyrgue, petite commune en zone de montagne dans notre haut Ségala, Lotois. Je vous précise aussi que je ne suis pas titulaire d'un master option langue de bois et que je n'ai pas l'intention de le passer. Les revendications, il y en a beaucoup. On a des projets de loi qui sont complètement déconnectés de nos réalités de terrain. Avant de pondre des lois dans vos bureaux parisiens, commencez par venir discuter des projets avec ceux qui gèrent le quotidien sur le terrain. Cela vous évitera, vous les élites, de nous imposer des lois. De nous imposer des lois, de nous affirmer qu'elles sont bonnes pour nous, sans avoir mesuré les effets dévastateurs sur nos territoires ruraux. Redonner du pouvoir aux maires. Les mairies sont devenues des coquilles vides, dépouillées de leurs compétences au profit d'Interco XXL, alors qu'elles étaient le premier échelon de démocratie. Elles étaient le premier lieu de proximité et de lien avec l'État.
Intervention très remarquée en janvier dernier de Christian Vanriès, maire de Saint-Cyrgue, commune de 352 habitants dans le Lot. C'était lors du grand débat national organisé par l'Élysée en réponse à la crise des gilets jaunes. Ce que pointe ce maire dès le début de cet extrait, c'est la déconnexion des députés et des ministres par rapport à la réalité vécue sur le terrain. Est-ce que c'est pour vous, Christian Robage, aujourd'hui le problème majeur, ce fossé entre vous, votre fonction et l'État?
Oui, effectivement, il a raison. Maintenant, on peut pas non plus tout accabler et tout mettre sur l'État. On est là aussi par conviction, on l'a voulu. Je pense qu'on l'a choisi et le choix est un luxe, comme je le dis souvent. Donc, mais c'est vrai qu'on a, on a quand même des personnages de l'État qui sont parfois déconnectés de la réalité. Et la réalité du terrain, en tout cas, elle va plus vite que les lois peuvent nous imposer aussi sur l'ensemble de nos territoires.
Comment elle s'est manifestée concrètement dans votre vie de maire, cette déconnexion? Comment vous l'avez vécue?
Je ne sais pas si on la vit de manière, je dirais, très, très, très quotidienne, dans le sens où on a d'autres préoccupations qui nous rattrapent, hein, évidemment. On la voit par rapport à la maladresse, au malheur, pardon, des gens, les exigences des gens qui sont de plus en plus affolantes, et il faut réagir immédiatement. Et ça, c'est très difficile pour nous de pouvoir réagir quand on n'a pas les moyens, en tout cas, des compétences qu'on nous impose tous les ans. On nous enlève des dotations de l'État, on nous enlève. C'est difficile d'avoir des crédits, c'est difficile de pouvoir amener à bout des certains projets et pas répondre correctement aux gens. Et parfois de les repousser aussi dans nos réponses, tout simplement. Donc après, il faut que nous, au quotidien, on soit à la fois des gestionnaires de l'humain, c'est-à-dire des gestionnaires aussi de nos agents municipaux, hein, qui sont nombreux et qui n'ont pas forcément les réponses et les moyens que l'on peut donner pour amener justement des projets à terme. Et puis les réponses qu'on n'arrive pas à donner correctement aux gens, quoi, tout simplement.
Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Christian Robache, à commencer par le sentiment de se sentir acculé par le nombre des tâches, par le nombre de doléances, excusez-moi, et aussi par le manque parfois de formation des gens qui vous accompagnent, le manque d'accompagnement. Et avant d'aller plus loin sur cette question, j'aimerais entendre David Lefebvre sur cette question. Je disais en début d'émission, David Lefebvre, que vous veniez de mettre fin à vos fonctions de maire de manière anticipée. Vous aviez été élu maire de Friville-Escarbotin en 2008, vous aviez 23 ans, puis à nouveau en 2014, et ça faisait de vous, à l'époque, en 2008, le plus jeune maire de France. Aujourd'hui, vous avez 35 ans et vous n'attendez pas la fin de votre mandat en 2020 pour partir. Qu'est-ce qui vous fait partir aujourd'hui ?
Il n'y a pas un élément en particulier, il y a plusieurs éléments qui effectivement m'ont poussé vers la sortie, mais... Il n'y a rien de nouveau et d'exceptionnel. Ça a déjà été évoqué, le sentiment de lassitude, la difficulté de se projeter à plus ou moins long terme parce que des moyens économiques qui s'amenuisent avec une société qui est effectivement de plus en plus exigeante. Bon, voilà, tout ça mis bout à bout, plus la particularité et là mon contexte personnel fait que j'étais élu très jeune et de fait j'ai mis ma carrière professionnelle entre parenthèses aujourd'hui.
Vous travaillez dans la communication, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Et bon, aujourd'hui j'ai repris d'autres activités, mais il était techniquement très difficile, humainement quasiment impossible de pouvoir mener de front à la fois un mandat local, un métier et puis aussi une vie de famille. Et tout ça rendait l'exercice extrêmement compliqué. Donc j'ai pris cette décision-là au début de l'été de pouvoir passer le flambeau à une de mes collègues qui a repris les clés de la politique, tout simplement.
Déjà en 2015, donc pas si longtemps après le début de votre second mandat, vous aviez publié un livre dont le titre très parlant était « Et toujours, la politique m'a tué ». Il y a eu très tôt une déception entre ce que vous imaginiez de la fonction de maire et ce que vous aviez découvert sur le terrain. Qu'est-ce qui vous avait donné envie à l'époque, à 23 ans, de devenir maire, David Lefebvre?
C'était extrêmement simple, hein. Il n'y avait pas de dimension politique à mon engagement. J'ai toujours expliqué ça et c'est assez particulier. C'est-à-dire que la politique, pour moi, en 2010, ça se cantonne au président de la République, éventuellement le premier ministre, quelques grands partis, mais c'est à peu près tout. Il n'y avait pas d'engagement de ma part particulier, et simplement la volonté de pouvoir être associé aux décisions de ma commune, puisqu'à l'époque j'étais commerçant, et il y avait, je trouve, des difficultés en termes de communication entre les élus d'un côté, qu'on considérait d'ailleurs comme une élite. C'est d'ailleurs assez rigolo, puisque j'entendais tout à l'heure parler des élites. Mais en fin de compte, la notion d'élite, ça dépend de là où on se place. Vous savez, quand vous êtes, entre guillemets, simple citoyen, vous allez considérer votre maire comme une élite. Et puis quand vous êtes maire, vous allez considérer le président de la République ou son gouvernement comme des élites. Donc finalement, tout ça, c'est qu'une histoire de point de vue. La vérité, c'est qu'il y avait à l'époque, comme j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui, un rapport au pouvoir un peu particulier. Et j'estimais qu'on devait, que le pouvoir devait être beaucoup plus horizontal et moins vertical. Et donc c'est pour ça que je me suis engagé dans cette aventure sans avoir de volonté particulière d'être élu. Et puis après, les choses se sont enchaînées extrêmement rapidement. Et j'ai été effectivement assez rapidement aussi, pas forcément déçu, mais en tout cas surpris de voir ce qu'on attendait d'un élu, d'un maire, devait à la fois gérer les deniers de la collectivité, et puis dans une commune relativement rurale comme la mienne, hein, c'est une commune de 5000 habitants, qui devait être aussi capable le dimanche d'aller récupérer les vaches qui étaient perdues dans une pâture du voisin ou sur la route. Donc il y avait vraiment de ce côté assez intéressant au début, de dire ben, on apprend plein de choses, puis plus on avançait dans le temps et plus la situation s'est dégradée, comme je le disais tout à l'heure, à la fois sur le plan économique, sur le plan financier, et puis sur le plan sociétal aussi, avec une population de plus en plus exigeante, et puis comme ça a été évoqué également tout à l'heure par mon ancien collègue, le transfert de compétences des communes vers l'intercommunalité qui a aussi...
Par la loi NOTRe de 2015, dont on va parler.
Qui a tué l'impact du maire dans le cadre de la gestion des grands projets, ou en tout cas des projets structurants.
Avant de parler justement de cette loi NOTRe et de ce qu'elle a fait au métier de maire, j'aimerais entendre Martial Foucault du CEVIPOF. Une enquête a été publiée en 2018 sur les maires des communes de moins de 500 habitants. Et dans cette enquête, il y a toute une partie consacrée à la tentation du départ, avec des chiffres là encore très parlants. 54% des maires en fin de mandat disent vouloir arrêter. 45% des maires des communes rurales pensent arrêter toute activité politique. Qu'est-ce que ça dit de la difficulté aujourd'hui, Martial Foucault, à être maire?
Ça dit plusieurs choses. Je crois que derrière ce chiffre, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, là vous citiez des communes de moins de 500 habitants. C'est vrai que la situation est différente selon la taille de la commune. Les deux maires qui viennent de s'exprimer représentent, voilà, on va dire, des communes de moins de 5000 habitants. Moi, je retiens deux éléments importants. Tout d'abord, c'est un excellent condensé des motivations, des raisons qui, dans cette enquête, nous avions interrogé 7000 maires, les conduisent aujourd'hui à renoncer à se représenter en 2020. Il y a à la fois un élément très personnel, et je crois qu'il faut insister là-dessus, c'est probablement le cas de M. Lefebvre, c'est-à-dire que la première raison invoquée, c'est l'impossibilité, quand on est maire, de pouvoir concilier une vie personnelle et ou professionnelle. Rappelons que près de 40% des maires ne sont pas maires à plein temps, ils exercent une activité professionnelle, et donc la difficulté à concilier vie personnelle et professionnelle avec le mandat de maire, aujourd'hui, conduit beaucoup d'entre eux à vouloir jeter l'éponge. Et puis il y a deux autres raisons qui ont été évoquées. Il y a une montée, et ça c'est un phénomène que nous observons depuis bientôt une quinzaine d'années, qui est lié à ce rapport de plus en plus individuel à la société. Il y a une montée de l'exigence des administrés, une forme d'ingratitude des citoyens vis-à-vis des efforts consentis par les maires, et qui finalement rendent les maires très malheureux, parce que c'est un métier et une fonction de dévouement total. Et donc ne pas être reconnu face aux contraintes, aux difficultés de la tâche, conduit encore une fois plusieurs d'entre eux à vouloir passer la main. Et puis il y a une troisième raison importante, c'est la relation avec l'État. Vous venez de parler de la loi NOTRe. Effectivement, pour moi, cette loi a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans le sens où les maires se sentent de plus en plus dépossédés de leurs fonctions, de leurs compétences, s'ils s'engagent. Et on sait la difficulté à l'engagement pour les élections municipales. Ils se retrouvent bien souvent maintenant simplement, j'allais dire, officiers d'état civil. Et les compétences pour lesquelles ils se sont engagés politiquement au sens noble du terme, pas de façon partisane, mais pour améliorer le quotidien de leur collectivité, eh bien, ils n'ont plus la main sur des compétences. On va certainement parler des compétences liées à l'eau, à l'assainissement, au développement
au
économique.
Transport,
et l'ensemble de ces éléments conduisent beaucoup d'entre eux aujourd'hui à réfléchir. Et n'oublions pas un point, je terminerai là-dessus, le souhait d'abandonner le mandat à la fin, j'allais dire 2020, concerne beaucoup de maires qui ont été élus pour la première fois en 2014. Alors, je ne sais pas si on veut parler véritablement de désillusion, mais il y a une vraie déception par rapport à l'abandon vis-à-vis des services de l'État. Les services de l'État, ce n'est pas seulement l'État central, mais c'est aussi les services de l'État déconcentrés dans les départements, les régions, et notamment les services préfectoraux pour lesquels les maires estiment beaucoup de... Enfin, beaucoup d'entre eux estiment ne pas avoir les réponses, ne pas y avoir les éléments d'appréciation de connaissances juridiques dans un environnement de plus en plus contraignant des normes, des règlements dont ils n'ont pas la connaissance quotidienne.
Donc, dans ce que vous dites, il y a encore une fois beaucoup de choses et nous allons d'abord nous concentrer, parce qu'on en parle depuis le début de cette émission sans vraiment l'expliquer, de cette loi NOTRe donc de 2015 qui est très décriée parfois à juste titre par certains élus locaux, une loi qui porte sur la nouvelle organisation territoriale donc et qui impose un transfert de compétences de la commune vers les intercommunalités. Les intercommunalités, je le précise, c'est un regroupement de communes ou de municipalités qui coopèrent dans un ou plusieurs domaines et qui donc privent les municipalités de certains de la gestion de, comme vous venez très bien de l'expliquer Martial Foucault, de l'eau, de la voirie, des transports, des piscines, des équipements municipaux. Christian Robache, ce transfert de compétences, vous, comment vous le vivez concrètement de voir échapper certains domaines de votre commune en fait?
Moi, je la vois de deux façons. La première chose, c'est que la loi NOTRe, je pense qu'elle a été faite un petit peu trop vite, voilà, sans forcément se rendre compte de la réalité. Par contre, le transfert de compétences, je pense que quand on pense territoire, quand on vit territoire, je pense qu'elle est nécessaire, tout simplement. La mutualisation, tout ce qu'on peut engendrer comme effort commun, parce que j'appelle ça un effort commun. Mais il faut penser territoire. Aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir une France avec tant de communes, avec tant de choses à gérer. Monsieur Foucault disait tout simplement qu'on n'avait pas forcément les compétences par rapport à des lois qui arrivent, à des aspects juridiques, et on a de plus en plus de responsabilités alors qu'on ne les contrôle pas, tout simplement. Mais je pense que l'intercommunauté est un élément fort, en tout cas, de la survie de nos territoires. Et je pense qu'il faut penser territoire, il faut penser intercommunalité, mais encore faut-il qu'on pense tous la même chose avec des vraies politiques communes. Mais pas au-delà de l'assainissement, au-delà du transport, au-delà de tout ça. Il faut aussi des politiques éducatives, il faut penser social, il faut penser jeunesse, il faut penser sport, il faut le prendre dans tous les sens du terme, en tout cas dans tous les domaines du terme. Mais il faut pas juste avoir que des compétences hein, obligatoires, d'autres optionnelles, en fonction du bon desiderata des élus. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que l'intercommunalité aussi, c'est un aspect politique. Si on n'est pas d'accord, excusez-moi l'expression, on plante un territoire, tout simplement. Donc il va falloir aussi que, et là je suis d'accord, il faut absolument avoir ce regard horizontal et non pas vertical avec des gens qui sont soit députés, soit ceci, soit cela, etc. Il faut aujourd'hui qu'on avance tous dans le même sens, avec un vrai sens commun. Et comme je le dis souvent, moi ça fait 10 ans que je suis élu, j'étais réélu effectivement en 2014, mais je pense que d'être élu local, c'est d'avoir le sens des gens. Il y a aussi des satisfactions, il n'y a pas que des inconvénients, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus, à portée de baf, quoi, tout simplement.
David Lefebvre, vous, en ce qui concerne ce transfert de compétences, vous parlez non seulement du fait d'avoir perdu des compétences comme celle de la voirie, par exemple, que la mairie ne gère plus et c'est dans votre commune un vrai problème, en tout cas c'est ce que vous considérez, et puis il y a aussi des pertes significatives de dotation de l'État.
Oui, tout à fait. Alors, sur le transfert de compétences, effectivement deux visions qui s'opposent. C'est-à-dire qu'il y a toujours typiquement la vision des grosses collectivités au sein de l'interco qui vont plutôt avoir tendance d'une manière générale à promouvoir l'intérêt collectif. Souvent l'intérêt collectif va aller dans le sens des plus grosses collectivités. Lorsqu'on se place plutôt dans les communes plus rurales, on voit que l'intercommunalité peut apporter parfois certains services, c'est indéniable, mais c'est très souvent aussi perçu comme une forme de connexion entre l'idée quotidienne du électoral.
Alors la ligne est très mauvaise. Je m'excuse David Lefebvre, je suis obligée de vous interrompre le temps qu'on réhabilite un petit peu la ligne téléphonique. En tout cas, on a bien compris que ce qui vous gênait dans ce transfert de compétences, c'était aussi une déconnexion effectivement de ceux qui du coup récupéraient les compétences et voilà de ceux qui vivaient les conséquences de leur travail. Je voudrais aussi qu'on s'attarde sur un point que vous soulignez tous depuis le début et sur lequel je n'ai pas encore relevé, qui est le fait que, comme vous le disiez avec, je reprends les vos mots, Christian Robin, vous êtes à portée de baffe, donc et plus, de plus en plus sujet. Marcel Foucault le disait aussi, aux critiques, aux remontrances de vos administrés. J'ai vu passer ces derniers jours une enquête dans la presse, un sondage qui disait que 3 Français sur 4 jugent positivement leur maire et que 61% des Français interrogés dans ce sondage souhaitent que leur maire soit candidat. Ça veut dire quand même que il n'y a pas que du désamour ou une rupture ou en tout cas une montée des hostilités entre les maires et les administrés. Vous le vivez comme ça, Christian Robache ?
Moi, je le vis bien de manière assez générale. Donc, si j'ai pris cette fonction, je rappelle quand même que être maire, ce n'est pas un emploi, c'est une fonction. Déjà, donc je pense qu'il y a une grosse méconnaissance aussi à ce niveau-là. Non, je le
Et donc, vous faites comment vous faites la différence, vous, si vous deviez l'expliquer ?
Ah bah, c'est une fonction de la République, tout simplement. Moi, je ne vis pas de la politique. J'ai un métier aussi à côté. J'ai une ville qui va avoisiner 15 000 habitants. J'accueille 1 000 habitants depuis 10 ans par an. Et c'est pas fini parce que j'habite dans une ville où on est dépendant aussi de l'aménagement de l'État, mais par rapport à ça, moi je le vis assez bien. Mais c'est vrai que on peut être que aimé parce qu'on est en proximité totale, donc forcément quand on a quelqu'un sous la main, on est capable de tout lui dire, mais il faut pas tout lui dire non plus, quoi, parce qu'il y a un moment donné il faut trouver des candidats, il faut être solide. Je suis pas le même maire qu'il y a 10 ans, j'ai pas les mêmes réponses. Je pense qu'un bon élu, c'est un élu qui sait dire non, qui sait expliquer les choses. Je pense qu'on manque de pédagogie, on a manqué d'éducation, de politique éducative, on a manqué de services civiques, parce que même si j'entendais Philippe Laurent ce matin à BFM qui disait que c'est peut-être un peu ringard, mais le service civique, ça peut aussi apporter beaucoup de choses et d'avoir une meilleure compréhension, en tout cas, du rôle que l'on a, de la fonction.
Ça ne remplace pas la communication, en tout cas.
Ça ne remplace pas la communication, mais je pense que les réseaux sociaux aussi nous ont un petit peu abaissé, en tout cas dans l'estime des gens, mais parce que c'est plus facile d'être derrière un clavier que d'être en face de quelqu'un et de se parler dans les yeux.
Marcel Foucault, vous souhaitez intervenir sur la relation entre les maires et les habitants des communes qu'ils administrent?
Oui, parce que en fait, vous avez raison. Il est important de souligner qu'aujourd'hui il y a un climat, je dirais plus général que celui de la démocratie municipale, où on a tendance, dès qu'une insatisfaction se fait jour, de chercher un bouc émissaire, un responsable de toutes sortes d'insatisfactions. Le point essentiel pour moi, c'est qu'au niveau municipal, ça vient d'être rappelé, effectivement, le maire est immédiatement exposé. C'est l'interlocuteur bien souvent que l'on connaît, que l'on peut rencontrer au quotidien, et celui qui aurait une sorte de baguette magique pour pouvoir répondre à toutes sortes de problèmes. Et les problèmes sont très nombreux, ils sont protéiformes, ça va des querelles de voisinage, on a l'impression de tomber dans le cliché, mais derrière les querelles de voisinage, c'est aussi des formes d'incivilité, d'incivisme, une exigence, on l'évoquait tout à l'heure, mais une exigence de plus en plus forte, et je crois qu'elle renvoie à une transformation plus sociologique des territoires en France, ou dans un grand nombre de communes périurbaines en particulier. On a une mobilité de nouveaux résidents qui bien souvent ont une activité professionnelle dans une ville, on va dire, plus grande, une ville urbaine, avec une attente en termes de services qu'ils souhaitent voir reproduire dans leur commune de résidence, souvent de taille beaucoup plus petite. Et là, ça crée une forme de hiatus entre un maire qui voit arriver des demandes, j'allais dire des demandes citadines, de la part d'habitants dans un espace périurbain, parfois périrural. Et cette situation crée une tension réelle de la part des maires, ou une forme, je dirais, presque d'insatisfaction, lorsque ces mêmes nouveaux habitants, d'une certaine manière, sont dans une logique extrêmement individualiste par rapport à l'exigence de services publics locaux, communaux. Et donc, les équipes municipales sont extrêmement mal à l'aise avec l'idée de devoir répondre, d'apporter des réponses à de nouveaux citoyens qui, d'une certaine manière, ne sont pas présents, ne participent pas, ne s'investissent pas dans la vie communale, que ce soit par les associations, que ce soit par précisément l'engagement lors des élections municipales. Et je dirais que ces tensions-là, elles renvoient d'une manière plus globale, et pas seulement au niveau communal, à ce rapport de plus en plus individuel à la politique. On le dit depuis presque 30 ans maintenant, il y a une montée de l'individualisme. Ça touchait les domaines de la consommation, les domaines, je veux dire, du secteur marchand. Et aujourd'hui, on observe que la chose publique est également, d'une certaine manière, contaminée par ce rapport extrêmement immédiat, selon la logique « je paye des impôts, donc j'ai droit à ». Et cette situation, moi, me semble extrêmement déroutante pour bon nombre de maires pour lesquels l'engagement ne les préparait pas à répondre à ce type de demande.
Mais est-ce que cette impréparation à répondre à ce type de demande, c'est pas aussi un manque d'accompagnement, justement, de la part de l'État? Il y a une loi, là, Sébastien Lecornu a présenté une loi le 17 juillet dernier, Engagement et proximité, qui sera discutée à la rentrée, où il est question, dans un point de cette loi, de mieux former les maires et les conseillers municipaux et de peut-être mieux les accompagner. Alors on ne sait pas comment, on ne sait pas concrètement comment cela peut s'améliorer et se faire, mais est-ce que il n'y a pas une impréparation dans un manque de formation, Martial Foucault?
Oui, alors c'est vrai que ce projet de loi engagement et proximité vise à répondre à un certain nombre de demandes qui ont été exprimées par les maires bien avant la crise des Gilets jaunes. Dès l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, un certain nombre de maires se sont exprimés de façon assez, j'allais dire, assez violente vis-à-vis de cet effort budgétaire qui leur était demandé. Et les maires voyaient immédiatement la principale dotation, la dotation globale de fonctionnement qui leur est reversée pour pouvoir engager les dépenses, notamment d'investissement, diminuer. Et puis, la crise des Gilets jaunes passant par là, les maires ont, d'une certaine manière, saisi l'occasion de montrer au gouvernement, de montrer à l'exécutif qu'ils étaient les premiers maillons de cette chaîne pour, j'allais dire, réenchanter d'une certaine manière la démocratie municipale. Et donc, ce projet de loi, certes, fait quelques avancées, notamment le statut de l'élu. Oui. Je dirais que c'est pas le point essentiel, la question. Il a été évoqué plusieurs fois la question de l'indemnité versée aux maires. C'est vrai que aujourd'hui elle est très faible. Il y a des effets de seuil selon qu'on est dans une commune de moins de 500 habitants. Voilà, on peut voir son indemnité doublée en deçà et au-dessus de 500. Et il y a la question de la responsabilité juridique et pénale engagée par les maires vis-à-vis des administrés qui n'hésitent plus à se lancer dans des procédures, notamment contentieux administratifs. Et puis, vous évoquiez la question de la formation. Oui, il y a un vrai déficit de formation aujourd'hui vis-à-vis des maires et de l'ensemble, j'allais dire, des équipes municipales. Parce que on pense souvent que le maire, bien sûr, il est très mobilisé, il est un peu au four et au moulin, mais souvent dans la constitution d'une équipe, il y a une forme de division du travail, espérant pouvoir confier la question des finances à une personne qui aurait quelques éléments de connaissance sur ces sujets, la voirie à d'autres personnes. Or, aujourd'hui, effectivement, l'inflation de normes, le Conseil d'État évalue à près de 400 000 normes applicables aux collectivités locales. Cet environnement, cette inflation de normes, mais dans une situation extrêmement délicate et inconfortable, les maires vis-à-vis de leurs obligations. Et donc, la formation, il faut bien voir que il faut trouver aussi le temps de se former. Et quand même, c'est un élément important qui est exprimé, témoigné par beaucoup de maires, de ne pas avoir le temps de libérer des heures ou des jours à la formation. Donc là, il y a un élément, notamment je pense aux maires qui ont une activité professionnelle.
Ce qui est le cas de nos deux maires présents.
Il y a un travail de reconnaissance vis-à-vis de leur employeur pour pouvoir libérer du temps.
Je précise juste que la rémunération d'un maire, selon le nombre d'habitants, c'est 646 euros pour les communes de moins de 500 et jusqu'à 1180 euros pour les communes de 10 000 habitants. On évoquait la crise des Gilets jaunes. Une question qui se pose, c'est est-ce que cette crise-là des Gilets jaunes a pu recréer un lien perdu avec les habitants des communes concernées? années. Une tribune parue dans le JDD en décembre dernier, donc en pleine crise des Gilets jaunes, faisait parler l'association des maires ruraux de France qui appelait les Français à se fédérer et à refuser d'être les éternels oubliés. Ils s'appelaient eux-mêmes les capteurs de douleur. Est-ce que, Christian Robache, vous, cette crise des Gilets jaunes a pu rebâtir un lien, recréer un lien avec des gens qui venaient vous voir pour les cahiers de doléances, pour remplir les cahiers de doléances ou d'autres raisons particulières?
Pas du tout. Pas du tout. Dans la ville comme la mienne, non, pas du tout.
Comment vous l'expliquez?
Je pense que on a une politique depuis 10 ans qui est très très proche socialement parlant. Donc on fait beaucoup d'actions sociales. On est même sur des actions où on va carrément plus qu'aider les gens, c'est-à-dire qu'on va au-delà en tout cas de nos possibilités, on les accompagne un maximum et depuis leur plus jeune âge, ou en tout cas les difficultés les plus naissantes. Mais non, les Gilets jaunes n'ont pas fait d'impact. Par contre, l'impact, je dirais que...
Je parlais pas d'impact, mais de dialogue, justement. Je parlais de renouer un lien perdu entre les élus et les administrés.
Non, pas pour moi, en tout cas.
David Lefebvre, sur cette question, justement, de l'accompagnement et puis de ce lien à recréer avec les administrés. Est-ce que vous, par exemple, ces derniers mois, la crise des Gilets jaunes a pu contribuer à recréer un lien entre vous et les administrés, les cahiers de doléances, les habitants de votre commune qui viennent vous voir?
En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai la même réaction, c'est pas du tout. Moi, la crise des Gilets jaunes, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'était, avant d'être un mouvement citoyen, un mouvement de consommateurs. On a essayé d'organiser des débats en partenariat avec les représentants locaux des Gilets jaunes. On a organisé des débats. Et finalement, c'était pas des débats, c'était simplement un défouloir permanent où...
Mais peut-être que les gens avaient des choses à dire qui n'avaient rien à voir avec de la consommation de doléances.
Ah ben, c'est malheureusement...
Alors peut-être que c'est ce que vous avez
vu. Ça a été ça, l'expérience que j'ai vécue, c'était celle-là.
Alors, comment est-ce qu'on peut... améliorer pour les quelques minutes qui nous restent le statut de l'élu. Vous, c'est quelque chose que vous revendiquez, Christian Robache, il faut améliorer le statut de l'élu.
Oui, tout à fait. Moi, je suis trésorier aussi de l'association des maires d'Île-de-France, donc avec Stéphane Baudet et l'ensemble du bureau de la MIF. Nous travaillons dessus parce que je pense que c'est important quand on voit les difficultés comme ça a été évoqué de lier le monde professionnel et puis de se mettre à disposition. Quand vous avez une ville comme la mienne qui évolue, forcément, je dirais que 100% de notre temps passe pour la ville, hein, tout simplement. Donc, il faut jongler tout ça. Il faut qu'on ait une sécurité derrière. Je pense que la loi qui est proposée par Sébastien Lecornu donne de l'espoir, mais elle n'est pas encore là.
Qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui en tant que maire?
Je pense qu'il nous manque, c'est surtout que certaines personnes viennent nous voir, simplement, pour qu'on parle vraiment et qu'on vit notre vie, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'on s'attend pas à nous, même nous, quand on se présente, on s'attend pas à une vie pareille. Je pense qu'il va falloir parler des choses vraies, arrêter de survoler les sujets.
Mais que les gens viennent nous voir, qu'est-ce que ça veut dire?
Non, je parle des élites, on parlait d'élites, enfin, en tout cas, des gens qui font les lois ou qui parfois semble faire des lois, mais je pense qu'il va falloir aussi être un peu plus proche de cette réalité que nous vivons au quotidien. Peut-être à nous aussi de la transpirer ou de la transparaître un petit peu plus fortement, mais voilà, c'est, je pense qu'on est, on n'est pas assez en connexion, en tout cas dans la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Le maire, je le disais tout à l'heure, est à portée de baffe. On a aussi des satisfactions, faut pas l'oublier, hein, quand on nous dit merci, quand on agit pour le bien des gens, quand on arrive à donner du bonheur aux gens, tout simplement, mais parce qu'on a mis à bien un projet, ou on a mené à bien un projet, mais il faut absolument que derrière on se rende compte de ce que c'est que le quotidien, le stress qu'il y a aussi, parce que parfois on n'y arrive pas, on n'est pas forcément aidé, on n'a pas les formations pour, et puis parfois on n'est pas forcément aidé par d'un côté budgétaire. Enfin, moi je le dis ouvertement, hein, c'est très difficile aujourd'hui de finaliser ces budgets tous les ans. Et je rappelle aujourd'hui qu'un budget qui n'est pas voté tous les ans, c'est la tête sur le bio du maire, quoi, tout simplement. Donc c'est un risque que l'on prend tous les ans. Les gens le comprennent pas, mais c'est peut-être à nous aussi de redoubler de pédagogie et de remettre le dialogue en conséquence.
Martial Foucault, pour terminer cette discussion, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à la fonction de maire pour qu'elle puisse fonctionner?
il manque peut-être peu de choses par rapport au niveau de confiance très élevé qu'accordent les Français à leur maire. Vous citiez tout à l'heure les deux enquêtes. Pour moi, c'est un vrai paradoxe de la démocratie française locale, c'est-à-dire que les maires sont aujourd'hui les représentants les plus appréciés des Français, loin devant les représentants nationaux. Et ça, c'est une inversion. N'oublions pas qu'au début des années 80, souvent le député était la figure emblématique d'un territoire. Aujourd'hui, ça s'est renversé. Ce sont les maires qui sont véritablement les porteurs de réponses formulées par les citoyens. Donc pour pouvoir maintenir ce lien de confiance, ce qui me semble indispensable aujourd'hui pour le gouvernement, c'est évidemment, et ça a été dit plusieurs fois, donc c'est une vraie réalité de terrain, réintroduire de l'horizontalité, éviter que les maires découvrent un ensemble de règlements qui leur tombent parfois un petit peu sur la tête et ils doivent se débrouiller avec ce cadre juridique. Et puis une deuxième avancée considérable, et c'est en lien avec les discussions qu'on avait sur les gilets jaunes, s'il y a eu autant de mobilisation autour des cahiers de doléances, c'était principalement pour dire que le niveau local, la proximité, c'est un élément essentiel aujourd'hui pour que les citoyens puissent se projeter dans l'avenir.
Et qui manque encore, comme on l'a vu avec l'intervention de nos deux maires présents en plateau.
Oui, et cette demande de proximité, pour moi, c'est l'un des carburants essentiels du lien de confiance au-delà des maires, mais entre les représentants et les représentés. Et donc, il faut repartir de cette base locale en ayant en tête un élément. Tous les territoires ne se ressemblent pas, mais ils partagent une problématique commune qui est d'être le premier maillon pour faire vivre la démocratie de proximité en France.
Voilà, la proximité comme problématique commune, nous resterons là-dessus. Merci beaucoup à vous trois, David Lefebvre, Martial Foucault, Christian Robache, d'avoir été avec nous en plateau pour parler de ce sujet. David Lefebvre, on peut lire votre livre La politique m'a tué aux éditions des Pays du Vent et les enquêtes du Cevipof, la dernière enquête 2018 sur les maires des communes de moins de 500 habitants sont disponibles en ligne. Dans un instant, on part au Guatemala, mais on marque d'abord un arrêt musical à Moscou. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынов, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Живи просто святому подобно. Не ешь скоромное, потребляй скромно. И станешь на ноги скоро. Зампрокурора, прокурор, коммунистическая партия, дружба с олигархами. Я патриот, сам из Хабаровского края. И дела решать не в какой-то там вашей Гейропе выбираю, а на родине, в России матушке предпочитаю. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынов, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Отдыхать, конечно, приятнее в Греции или Ницце. Не поеду на Фарос, говорят, там перебой с электричеством. Но если кто меня спросит, иметь бизнес тут или в загранице, то тут я сторонник российских традиций. Кого надо допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам скормим. Кто не нужен, того похороним. Слишком резвых мы на зоне трудоустроим. За своих мы до конца стоим, понял? Ведь дружба, брат, это святое. Без проблем, брат, уголовное дело твое закрою. Тех, кто много пиздит, зарою. Кто будет выебываться, уедет под конвоем. Надеюсь, Володя, Леша Навальный и Петя Павленский тебя больше не побеспокоят. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынов, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Есть, например, директор в иркутском пароходстве. С нашими интересами не имеет, сука, никакого сходства. Директор не отдает пароходы, а у Господа Бога свои заходы. Гараж, табуретка, веревка, ночь. Директору решаем нежно помочь. На погоне новая звезда, на шее стронгуляционная борода. Shaika des Pussy Riot, une chanson qui raille le pouvoir en place avec des paroles ironiques comme « Sois loyal, obéis à ceux qui ont le pouvoir, car le pouvoir est un cadeau de Dieu, j'aime la Russie, je suis un patriote ». Près de 50 000 personnes se sont rassemblées hier à Moscou pour réclamer des élections libres en septembre et dénoncer l'exclusion des candidats indépendants, avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Vous nous avez assez menti ». C'est le quatrième week-end de manifestation et c'était hier la plus importante en nombre depuis le retour au pouvoir de Vladimir Poutine en 2012. 71 personnes ont cependant été interpellées selon les chiffres de l'ONG OVD Info.
Le magazine du week-end, Émilie Chaudet.
À 11 300 km de Moscou, la colère gronde elle aussi en ce jour de scrutin présidentiel au Guatemala. C'est l'objet de notre second plateau. Le premier tour a eu lieu le 16 juin dernier. Aujourd'hui, deux principaux candidats s'affrontent. Sandra Torres, proche du pouvoir et du parti de centre-droit Union Nationale de l'Espérance, et le conservateur Alejandro Yanmatei du parti Vamos. Élection sans grands enjeux pour les électeurs qui vont se rendre aux urnes aujourd'hui dans ce contexte de perte de confiance dans leurs institutions et dans un pays gangréné par la corruption et le narcotrafic. Et pour parler des enjeux de cette élection, nous sommes en plateau avec Kim Aumonier. Bonjour.
Bonjour.
Vous vivez au Guatemala et vous êtes consultante en droits humains en partenariat avec diverses ONG. Gilles Bataillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, spécialisé en sociologie de l'action armée, de la violence et de l'expérience démocratique en Amérique latine. Et avec nous au téléphone, Kevin Partenay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et membre de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. Nous sommes en train de retourner au 19e siècle. Les implications pour le Guatemala, d'un point de vue humain, social, économique, vont être désastreuses. Nous devons être vigilants par rapport à tous les malheurs que cet homme voudra encore provoquer. Ce sont des assassins, des voleurs. Ils veulent qu'on se tire dans les pattes. Mais nous sommes un peuple solidaire. On ne peut pas leur permettre de nous diviser. Une centaine de manifestants guatémaltèques se sont réunis le 1er août dernier pour protester contre un accord migratoire signé par le président du pays Jimmy Morales et Donald Trump, un accord qui fait du Guatemala un pays fortement marqué par la pauvreté, la corruption de ses élites et le narcotrafic, un pays tiers sûr, selon l'accord, un pays d'accueil pour les demandeurs d'asile aux États-Unis. En quoi cette polémique qui est venue secouer cette fin de campagne du second tour peut marquer ces élections, Kevin Partenay? Tenait et quel héritage de cet accord peut se concrétiser pour le nouveau ou la nouvelle présidente élue?
Alors déjà, cet accord a indéniablement marqué la campagne, hein, puisqu'il il a eu un effet de polarisation assez net. Malheureusement, cette polarisation, elle est assez vaine, puisque au final, aucun des candidats élu ne pourra réagir face à une administration américaine qui exerce une pression absolument colossale sur le gouvernement. Donc au final, beaucoup des médias nationaux ont été alimentés par cet accord, et notamment un débat qui était très précis sur est-ce que Jimmy Morales avait le droit ou non de signer, étant donné qu'il était président sortant pour quelques mois au pouvoir, cet accord avec Donald Trump. Ça a alimenté beaucoup les débats, mais ça n'a pas fait avancer beaucoup les choses, puisque le cœur et le nœud du problème est évidemment la question migratoire, qui est liée à des questions économiques. Mais en aucun cas, la révision de cet accord ou les marges de manœuvre du président élu, qui sera élu donc demain, ne pourra remettre fondamentalement en cause la structure générale et de la migration et la dépendance d'une certaine façon qui est très présente vis-à-vis du gouvernement américain.
Alors la Cour constitutionnelle du Guatemala s'est opposée à la signature de cet accord, tout comme elle avait invalidé, on va en parler au cours de cette émission, la décision de Jimmy Morales de supprimer le mandat de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala. Et est-ce que on est confronté, Gilles Bataillon, à une absence de garde-fou du pouvoir?
C'est très compliqué parce que à la fois il y a une cour constitutionnelle avec des magistrats très courageux, en particulier quelqu'un, et je pense à une magistrate qui a travaillé avec la CICIG, qui est Thelma Aldana, et en même temps vous avez ce qu'on a au Guatemala qu'on appelle les pouvoirs de fait, qui sont les pouvoirs de grands groupes entrepreneuriaux dont la figure la plus visible est le CACIF, le Conseil pour l'entreprise privée guatémaltèque, des militaires qui sont dans les affaires et qui pèsent sur les gouvernants et qui vivent de, disons, la mainmise sur un certain nombre de trafics qui vont des bakchiches sur les travaux publics, qui vont des raquettes sur les migrants et qui vont, bien sûr, et c'est devenu quelque chose d'extrêmement important, le trafic, le passage de la coca-cocaïne par le Guatemala, destination du Mexique, puis des États-Unis. Et en fait, d'une certaine façon, toute une partie de ces pouvoirs de fait qui sont des militaires devenus des hommes d'affaires et des gens, des grandes familles d'hommes d'affaires du pays, sont des gens qui considèrent qu'il vaut mieux avoir des gardes privés qui vous protègent, s'entourer de fils de fer barbelés, et que l'idée qu'il y ait un état de droit et une sécurité pour tous, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Ils sont comme un groupe qui vit dans la nation guatémaltèque et qui se constitue comme un groupe à part. Et tout ça pèse extrêmement fort sur la vie politique guatémaltèque, avec une autre chose qu'on oublie, c'est que toute une partie des gens des classes populaires sont dans cette idée-là. C'est-à-dire ils ont l'idée qu'il faut devenir riche pour vivre comme ça. Et c'est des choses qui traversent une partie de la gauche. Et par exemple, les accusations de corruption contre quelqu'un comme Colom, qui a été le mari de Sandra Torres, c'est des choses...
Et le président.
Et qui a été le président du pays, qui avait soulevé un très grand espoir, parce qu'il était le neveu d'un maire de Ciudad Guatemala, qui avait été un homme qui avait porté les espoirs de la gauche à la fin des années 70. Tout ça, c'est des choses que souvent dans les analyses, on ne veut pas prendre en compte. Or, il faut les prendre en compte si on veut comprendre l'état de déliquescence du pays et cette espèce de vision politique à court terme de la plus grosse partie des acteurs. Et c'est ça qui fait le drame guatémaltèque.
Vous avez cité, Gilles Bataillon, le nom de cette ancienne magistrate, Thelma Aldana, qui a été donc une des candidates au premier tour de l'élection présidentielle et qui a été évincée car menacée, a dû aller se réfugier aux États-Unis. Dans cette campagne au premier tour a été marqué par des menaces, des séquestrations, une grande violence, y compris parmi les candidats à l'élection présidentielle, vraiment des méthodes de dissuasion très fortes. Kevin Partenay, est-ce que il y a une montée de la violence au niveau politique au Guatemala? Est-ce que cette situation que je viens de décrire en quelques mots succinctement est habituelle dans ce pays?
Alors oui, c'est des situations qu'on voit depuis des décennies, hein, à chaque échéance électorale, hein, même l'histoire du pays a connu des épisodes de violence bien plus importantes, hein, dans les années 80, on pourra se rappeler les scénarios de guerre civile et quasiment la décennie de guerre civile, et des génocides également dans une période un peu plus lointaine. Donc la violence politique, elle est extrêmement présente. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle revient de manière extrêmement forte. Elle est revenue de manière extrêmement forte dans cette élection-là. On a vu qu'il y a eu des assassinats de maires, notamment dans des régions alors beaucoup plus rurales. Et puis, bon, il y a tout ce que l'on appelle traditionnellement la campagne negra, donc les campagnes noires, c'est-à-dire des atteintes aux candidats pour les déstabiliser, pour tout simplement démonter littéralement leur campagne et faire en sorte qu'ils n'aient plus aucune chance de pouvoir assurer la compétition. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement courantes. Alors, c'est pas du tout du fait du Guatemala, hein, c'est des choses qu'on voit partout, même je citais les États-Unis tout à l'heure, on le voit aussi très fortement dans les campagnes électorales américaines. Donc c'est pas quelque chose d'inédit, mais c'est très présent. Et alors pour rejoindre également le propos de Gilles Bataillon, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là, le fait que il y a eu une véritable capture, on parle souvent de capture de l'État, c'est-à-dire que il y a une oligarchie avec un sentiment d'impunité complet qui se met au-dessus de l'État, au-dessus des lois, et qui va pouvoir faire la pluie et le beau temps dans le pays de manière complètement autonome. Mmh. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que au-delà des élections, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens sont totalement désabusés pour les élections de demain, les gens n'y croient plus vraiment. Et les principaux enjeux à chaque fois qu'il y a une échéance électorale, c'est de savoir combien de personnes vont participer et quel crédit le président en place va avoir, ou quelle légitimité il va avoir une fois au pouvoir. Donc c'est véritablement cette question-là. Et effectivement, le principal danger qui existe aujourd'hui au Guatemala, dans une période comme ça très stratégique d'élection présidentielle, c'est de savoir si l'État va pouvoir se consolider, essayer de contourner cette capture de l'État, mais si on regarde les deux candidats aujourd'hui qui vont s'affronter demain, voilà, on n'a pas véritablement ces perspectives-là en l'occurrence.
Alors, vous me tendez une perche pour la question suivante que je voudrais poser à Kim Aumônier, qui est celle de la réaction, des attentes du peuple guatémaltèque par rapport à ces élections. Il est vrai que on lit ici et là une forme de lassitude du peuple qui n'attend pas grand-chose de ces élections à cause de l'organisation au plus haut sommet de l'État de cette impunité. Vous, Kim Aumônier, qui vivait dans ce pays depuis octobre dernier et qui en revenait tout juste là en France, on a entendu là il y a un instant la colère des citoyens guatémaltèques. Donc il y a une force de mobilisation, mais comment peut-elle se traduire cette colère dans les urnes?
En effet, il y a une force de mobilisation au Guatemala qui s'est vue les derniers mois. Notamment, par exemple, en mai, il y a eu une marche pour la dignité contre la corruption du président Jimmy Morales, mais aussi pour montrer aux nouveaux candidats que le peuple était là pour les responsabiliser également. Et les gens ont marché pendant 8 jours sur différents départements et sont arrivés à la capitale. Malheureusement, on voit que par exemple Sandra Torres, qui est arrivée première au premier tour, n'a eu que 24% des voix. Il y a eu un énorme taux d'abstention où les gens n'ont pas été votés, où ils ont mis des bulletins nuls. Donc l'enjeu électoral en soi n'est pas le moment le plus fort de la mobilisation. Il y a le risque également qu'au second tour, en général au Guatemala, au second tour, il y a moins d'électeurs qui vont voter. Et ça va avoir un impact si c'est le cas dans les départements ruraux qui sont plus en faveur de Sandra Torres, ou si l'abstention est plus forte au niveau de la capitale, qui voterait plus en faveur de Diamaté.
En tout cas, la mobilisation citoyenne ne se jouera pas dans les urnes, elle peut se jouer dans la rue ou ailleurs, on verra comment, plus tard dans l'émission, mais pas dans les urnes.
Oui, exactement. En ce moment, par exemple, il y a des manifestations dans la plupart des universités publiques du pays qui contestent les politiques de privatisation de l'université, mais également s'inscrivent dans le contexte électoral pour demander plus de respect des droits humains, de respect des citoyens et du droit à l'éducation. Également, il y a des manifestations en cours en face du Palais National pour des questions liées à des licences minières qui sont données à des entreprises contre les avis constitutionnels. Et peut-être pour revenir à cette question-là des garde-fous, ce qu'on voit au Guatemala, c'est que exactement comme la Cour constitutionnelle restait un des anciens garde-fous, un des derniers garde-fous, je veux dire, de l'ordre démocratique, mais le président actuel est en train d'aller contre nombreuses de leurs résolutions, de la résolution des magistrats.
Ne les écoute pas,
tant pour cet accord de tiers pays, comme également l'accord de la CICIG, la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala. Donc on voit que la population effectivement essaye de se mobiliser et se mobilise, mais l'ordre démocratique, comme le disait également un des intervenants sur le pacte des corrompus qui capture l'État.
Alors, avant d'en venir à justement cette commission internationale contre l'impunité au Guatemala, qui est quand même une question centrale et qui a beaucoup marqué aussi le questionnement sur cette campagne, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur les deux candidats en lice, Sandra Torres et Jan Matei, qui s'affrontent. L'un comme l'autre, il n'incarne en aucun cas une quelconque forme de changement politique, Gilles Bataillon.
Si vous voulez, ce qui est très impressionnant quand on voit des déclarations de l'une et de l'autre, c'est qu'il n'y a aucune réflexion solide sur les deux problèmes qui sont les problèmes majeurs du Guatemala, c'est-à-dire la corruption. Aucune des deux ne dit « il faut renouveler le mandat de la CICIG, il faut poursuivre ce qui a commencé à être entrepris ». Et aucun des deux candidats ne dit non plus « qu'est-ce qu'on peut faire sur ce problème majeur ?» qui est celui des migrants. C'est-à-dire ni sur celui de l'arrivée des Honduriens et des Salvadoriens, ni sur celui du départ des Guatemalens, parce que le paradoxe du Guatemala, c'est que c'est depuis longtemps un pays qui envoie des migrants vers les États-Unis, qui en envoie aussi beaucoup au Mexique, qui passe beaucoup plus inaperçu, parce qu'on les prend pour des gens des communautés indiennes, du Chiapas et du sud du pays dans l'ensemble. Donc ils sont beaucoup plus invisibles au Mexique, mais ils sont très nombreux. Vous avez toute une série de gens qui sont des employés de maison, des jardiniers, des ouvriers de la construction dans la ville de Mexico, qui sont des Guatémaltèques. Mais on ne les voit pas, on pense que c'est des gens qui viennent du Chiapas. Et il n'y a aucune réflexion là-dessus. Et ce qui est très impressionnant de la part de ces deux personnes, c'est que c'est une femme et un homme politique qui jouent à très court terme leur arrivée au pouvoir, et on ne voit pas très bien quelle est leur stratégie et leur dessein au-delà de « je serai présidente » ou « je serai président ».
Surtout pour Sandra Torres, qui donc, comme on l'a dit, Gilles Bataillon était l'épouse d'Alvaro Colom, ancien président, et qui de fait a déjà exercé le pouvoir, en fait.
Oui.
Kevin Partenay, qu'est-ce qui, dans les programmes des uns et des autres, donc Gilles Bataillon vient de dire que au niveau de la question migratoire comme au niveau de la lutte contre la corruption, il n'y avait rien de notable, même voire rien du tout dans leur programme, mais qu'est-ce qu'ils proposent ces deux candidats en fait?
Vous parliez de changement politique tout à l'heure, on est assez nettement en fait sur un statu quo généralisé dans les deux programmes, puisque du côté de Sandra Torres, on aura une pâle continuation de ce qui a été fait sous la présidence d'Alvaro Colom, c'est-à-dire à peu près rien, et pour Alvaro Giammattei, tout ce qu'on peut espérer par en tout cas sa stature de chef d'entreprise, d'homme d'affaires, c'est une sorte de dynamisation économique. Mais quand on regarde justement la question économique dans son programme, c'est assez atterrant. On est en fait avec des mesures qui sont extrêmement classiques et là presque je cite le programme, c'est attirer des investissements, dynamiser les échanges commerciaux. C'est pas ça qui fait un programme innovant sur le plan économique, et encore plus dans la période en Amérique latine de restructuration des échanges.
Et ce n'est pas ça non plus qui arrange le quotidien de la population.
Absolument pas. Comme on le disait tout à l'heure, un des facteurs centraux de la migration, c'est précisément la question du sous-développement. Le Guatemala, alors j'ai plus les chiffres peut-être les plus actualisés en tête, mais je crois que de mémoire, on était à 64% de taux de pauvreté et 12% d'extrême pauvreté, mais mes collègues pourront peut-être me corriger. Mais le cœur, fondamentalement, du problème, il est celui-ci, c'est-à-dire le sous-développement et la capacité à trouver les clés d'une intégration sociale, d'une inclusion sociale, et essayer de tirer la société guatémaltèque vers le haut. Aucun des deux candidats n'a les clés en main, d'une part, ni le début d'un programme pour pouvoir s'attaquer à ces questions-là. Donc, on est précisément dans un contexte où il n'y a pas à attendre de changement politique. La corruption nous le dit, la question économique nous le dit, et c'est du même acabit pour les questions sociales, pour les questions environnementales. On a parlé rapidement de ces licences minières. On est tout à fait dans le même registre d'un réalisme de dépendance économique qui fait qu'on est prêt à donner des parties du territoire aux plus offrants pour exploiter des ressources minières, et c'est un drame écologique dans bon nombre de parties du pays. Donc c'est assez inquiétant à l'avenir. On est sur des choses, des programmes de très court terme, comme le disait Gilles Bataillon, mais c'est inquiétant sur l'avenir, puisqu'il n'y a pas véritablement de perspective de futur pour la société guatémaltèque.
Et on dirait que c'est même pire qu'avant, parce que Jimmy Morales, le président sortant, lui, il a été élu en 2015, c'est un ancien comique de télévision, et il s'est présenté avec la promesse d'en finir avec la corruption. Donc au moins, il y avait un affichage, même s'il n'était pas forcément sincère, d'en finir avec la corruption. Bon, on sait par la suite qu'il a abrogé un article de loi du code pénal qui permettait aux membres, qui permettait la poursuite de membres du Congrès justement pour des financements illégaux d'élections, et qu'il n'a absolument rien fait pour lutter contre la corruption. Mais là, Gilles Bataillon, il n'y a même plus d'engagement de ces candidats.
Si vous voulez, ce qui est très compliqué, c'est que on a pensé au moment du premier coup d'arrêt aux guerres internes en Amérique centrale, qui étaient les accords de paix régionaux lancés par le président du Guatemala démocrate chrétien et le président social-démocrate du Costa Rica, les accords de 87. On a pensé que la paix allait s'installer dans la région et que un début d'industrialisation, ce qu'on appelait les maquilas, ces industries d'assemblage pour de la petite métallurgie et de la confection, allait se développer, que ça allait permettre d'absorber une main d'œuvre. Et en fait, c'est le moment où la Chine est arrivée sur le marché international. Donc toutes ces boîtes n'ont plus investi dans des pays comme le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua. Elles se sont tournées vers la Chine ou vers le Vietnam et l'Inde. Et il y a quelques maquilas de vêtements qui restent présentes au Guatemala, mais il y a un chômage massif. Et l'agriculture, les prix du café se sont effondrés du fait de la concurrence vietnamienne, du fait de la concurrence d'autres pays latino-américains. Et je lisais ça dans El País, le quotidien espagnol. Même le maïs mexicain, qui est produit à bien moindre coût que le maïs guatémaltèque, vient priver les agriculteurs de revenus financiers parce que le maïs mexicain est trois fois moins cher que le maïs guatémaltèque. Donc vous avez une espèce de crise structurelle et avec une reprimarisation des économies comme dans toute l'Amérique latine, avec cette chasse, c'est la seule chose nouvelle, je ne sais pas si c'est un bien, c'est que le grand acheteur de matières premières et le grand banquier de l'Amérique latine, c'est aujourd'hui la Chine communiste.
Alors sur cette question de la commission internationale pour contre la corruption au Guatemala, c'est qui, enfin, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que c'est un point important de cette campagne et un des enjeux. C'est une commission onusienne créée en 2006 et qui a fait beaucoup pour la lutte anti-corruption avant que Jimmy Morales, qui avait encouragé au début l'action de cette commission, ne mette fin à son mandat le 7 janvier dernier, alors même que cette commission avait commencé à enquêter sur un des membres de sa famille et sur lui. Son chef, Ivan Velasquez, est menacé, a dû quitter le pays. Ça, Kevin Partenay, comment est-ce que ça a pesé auprès des électeurs potentiels pendant la campagne, cette décision-là? Parce qu'en plus, c'est une commission qui a eu vraiment un rôle dans l'assainissement des affaires politiques et sociales du Guatemala.
Oui, complètement. Cette commission a, on parlait de capture de l'État tout à l'heure justement. Cette commission a vraiment engagé un travail de, si je puis dire, de détricotage de cet État et de l'oligarchie en tout cas qui l'a capturé depuis des décennies. Et on voyait justement des perspectives d'avenir par rapport à un personnel politique qui n'avait plus les possibilités de se réfugier derrière une impunité généralisée. Et précisément, la commission, elle a été fragilisée à partir du moment où cette élite-là s'est vue, elle aussi, fragilisée. Et malheureusement, d'une certaine façon, ils ont eu des ressources et ils ont su peser sur Jimmy Morales au moment où il le fallait pour tout simplement faire une bascule et empêcher la continuité de son travail. Alors, vous l'avez très justement dit, c'est le point de bascule, il a été passé au moment où ils se sont attaqués à son frère. Le frère de Jimmy Morales. Et à partir de ce moment-là, on a vu, on est passé d'un soutien public du président Morales depuis sa campagne jusqu'au début de son mandat à un refus systématique de son travail, jusqu'à même une contestation de sa légitimité, et même de son intégrité, puisqu'il y a une remise en question du sérieux de ses travaux, etc., etc. Donc on a véritablement eu la disparition à travers le non-renouvellement du mandat de la CICIG, la disparition presque du seul instrument qui était en capacité de pouvoir déconstruire cette oligarchie qui capture l'État depuis des décennies.
Et à partir de là, quel que soit le candidat élu, la disparition de cette commission, de toute façon, fait que déjà l'immobilisme était de mise, mais là, il n'y a plus d'espoir de changement, Gilles Bataillon, d'un point de vue politique et social.
Non, si vous voulez, ce qui est très compliqué, ce que rappelait Kevin Partenay, c'est que cette commission, elle a mis en lumière la chose suivante. Disons, ce qui a fait déborder le vase, c'était les douanes parallèles de Pérez Molina et de sa vice-présidente. Et là, il y a une partie du monde entrepreneurial qui en dit c'est pas possible, on peut plus travailler dans ces conditions-là.
Donc, vous pouvez expliquer juste d'un mot.
Ils avaient mis en place des douanes et soit vous passiez par leurs douanes parallèles et vous libériez et vous sortiez des entrepôts où des choses étaient mises sous séquestre avant d'acquitter des droits de douane pour quand vous étiez commerçant, petit industriel, hôtelier. Soit vous ne passiez pas par leur système de pots de vin et vos marchandises restaient paralysées. Donc il y a une partie de la classe entrepreneuriale qui a appuyé la société civile, qui protestait contre ça, et le CACIF a participé à cette campagne. Mais le jour où ils ont compris qu'on n'allait pas faire tomber quelques têtes qui seraient les plus visibles, mais qu'on allait détricoter réellement les intérêts mafieux de systèmes de pots de vin qui gangrènent le système économique guatémaltèque, ils ont pris peur et ils ont fait marche arrière. Et ce qui est tout à fait impressionnant, c'est effectivement cette espèce d'incapacité de raisonner à long terme. Et d'une certaine façon, ils ne sont pas les victimes de la violence qui est avant tout extrêmement présentes en ville. C'est des gens qui circulent en voiture blindée, qui ont des gardiens pour des propriétés gigantesques et qui ne veulent pas voir ça. Il y a une espèce de cécité historique qui est tout à fait impressionnante et qui est d'ailleurs celle de toute une partie des classes dirigeantes de l'Amérique centrale, voire pour une part du Mexique.
Kevin Partenay, vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Gilles Bataillon?
Oui, tout simplement pour dire que cette espèce de lueur d'espoir, en tout cas qui était très présente avec la CICIG, elle ne vient pas du fait, je pense que ce serait une erreur de penser que c'est simplement parce qu'une institution onusienne, donc extérieure aux institutions nationales, aurait travaillé pour aider le pays d'une certaine façon. Ce serait une erreur de penser ça, en tout cas que ça vienne uniquement de l'extérieur. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que le mandat de la CICIG, il n'est pas simplement onusien, c'est un mandat qui est conjoint avec le ministère, l'équivalent du ministère de l'Intérieur du Guatemala, et ils travaillent conjointement pour pouvoir mettre en œuvre toutes les séries d'enquêtes qui étaient menées. Donc cet espoir qui a été très présent depuis l'instauration de la CICIG, donc enfin sa mise en activité en 2007, c'est aussi le fait qu'une institution publique nationale se soit mise en œuvre de marge d'une certaine façon pour pouvoir détricoter cet état dont on a pu parler précédemment. Et ça, c'était complètement inédit, puisque la majorité des administrations publiques, de l'administration publique du pays, était jusqu'à présent complètement prise en main par diverses élites, que les économiques ou une élite plus traditionnellement politique. Et là, ce ministère était véritablement à travailler main dans la main avec une agence onusienne. Et ça a été quand même un déclic important.
Kim Aumônier, vous qui accompagnez plusieurs combats, qui avez accompagné, qui en accompagnez encore plusieurs combats de lutte pour les droits humains, comment dans un tel contexte on peut s'engager? Comment est-ce qu'on peut imaginer dans un avenir proche, c'est moins sûr, mais dans un avenir en tout cas à moyen terme, l'émergence d'une figure d'opposition, en tout cas d'un élan d'opposition au Guatemala?
Tout d'abord, je voulais revenir sur le système de la CICIG et l'implication que ça a eu pour les élections, puisque l'ancienne fiscale générale qui était Thelma Aldana, qui a travaillé, qui justement était à la tête du ministère public au moment de la visibilisation des grands scandales de corruption, était une des candidates favorites au premier tour, et elle a été évincée. Non seulement elle a dû aller aux États-Unis parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre elle, mais également les cours locales ont empêché sa candidature. Donc ça a joué, ça a eu un effet fort sur les résultats électoraux du premier tour, puisque ça a laissé la porte ouverte à Sandra Torres et à Jamatei, et également ça a fait que son électorat n'a pas disparu, mais a voté en majorité pour Thelma Cabrera. Peut-être pas en majorité, mais si, a voté fortement pour Thelma Cabrera, qui était une candidate autochtone, Maya. Et pour la première fois, une candidate autochtone est arrivée à la quatrième place avec des résultats tout à fait corrects et a même été victorieuse sur Roberto Arzu, qui était le fils de l'ancien président. Donc il faut montrer l'effet.
Même
que ça
si elle n'a malheureusement pas pour les droits humains, le combat pour les droits humains dépassait le premier tour.
Exactement. Mais c'était déjà quelque chose de qui ne s'était encore jamais vu au Guatemala. Donc je voulais souligner cela. Sur la possibilité de figure d'opposition, pendant les élections, il y avait 26 partis politiques. Dans ces 26 partis politiques, 20 sont de l'extrême droite au centre droit. Il y a une gauche très fragmentée et des partis politiques très volatiles. Donc au niveau électoral, c'est très difficile qu'il y ait une figure d'opposition et la gauche a gagné très peu de sièges au Congrès. Par contre, au niveau local, il y a des très fortes mobilisations à tous les niveaux. Il faut souligner l'importance de la défense du territoire et des droits à la terre des peuples autochtones. Gilles Bataillon citait deux grands problèmes, notamment la migration. J'ajouterai toute cette question du droit à la terre au Guatemala. Et là, si, il y a de fortes mobilisations, mais également une très grande répression, puisqu'il y a eu 26 personnes assassinées l'an dernier. Il y a déjà plus de 10 défenseurs assassinés cette année.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations sur ce pays dont on parle trop peu, le Guatemala. Merci donc à vous, Gilles Bataillon de l'EHESS, Kevin Partenay de Sciences Po, Kim Aumônier, consultante en droits humains vivant au Guatemala. Des liens seront visibles vers vos travaux sur notre site internet franceculture.fr à la page de l'émission du magazine du week-end où vous pourrez également réécouter et podcaster cette émission. Merci à Chloé Rossignol, à Catherine Donné, Benjamin Teinturier, Isée Sorel qui m'aident à préparer cette émission et à Émilie Vala qui la réalise. À la prise de son aujourd'hui, c'était Pierrick Monsigny. On se retrouve samedi prochain à 12h40 sur France Culture, mais tout de suite, c'est l'heure des idées claires avec Nicolas Martin. Thank you.